Je voudrais commencer l'AG en vous signalant que grâce à plein de gens très motivés, on est à la fois filmé et enregistré. Donc il ne faut pas qu'on dise trop de bêtises. Il y a un streaming, donc une diffusion en direct, à la fois pour le son qui est là et à la fois pour la vidéo, pardon, via deux caméras. C'est essentiellement nous qui allons être filmés, mais ça veut aussi dire que si jamais certains d'entre vous étaient ici incognito et ne voulaient absolument pas apparaître, ça serait bien de vous mettre dans le fond, de manière à évidemment ne pas rentrer dans le champ caméra.
Donc si vous ne voulez pas apparaître, il y a le coin là-bas, à droite, à votre gauche, qui est réservé pour les anonymes.
Voilà, les anonymes, les espions, les gens qui sont là alors qu'ils devraient être au boulot, enfin voilà. Alors, vous rigolez, mais ça m'est arrivé, moi, une fois, en venant filmer une conférence dans un événement libriste où je pose ma caméra, mon pied, machin, et le gars me dit « Mais tu comptes pas me filmer, quand même ?» Je fais « Bah si, je compte filmer ta conférence. » Il me fait « Ah non, mais là, je suis censé être au boulot, hein, donc il n'est pas question que tu me filmes. » Donc, j'ai rien pu enregistrer ce jour-là. Ça arrive. Bien, on va démarrer. Ouais, hein ? À la fac d'Orsay, à Paris.
Et c'était qui ?
Tu veux que je te donne le nom du gars ? Alors attends, je vais rechercher dans mes archives.
Coupe le flux.
Voilà. Donc, on va démarrer. Donc, je vous remercie tous d'être venus. Je vais passer la parole donc à Tanguy, notre président, qui va commencer à vous présenter le rapport moral. Et ensuite, dans une deuxième partie, donc François vous présentera la partie bilan financier.
Eh bien, effectivement, bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle Assemblée Générale de l'April. Comme Lionel vient de vous le dire, c'est une Assemblée Générale qui a lieu physiquement à l'Effray, mais également partout sur Internet, grâce au travail de Vincent, Rémi et Alban, de nombreux internautes en France comme dans le monde. Comme vous allez le découvrir dans le rapport moral, on a des adhérents à peu près partout dans le monde et partout en France. Vont pouvoir suivre cette Assemblée Générale. Donc, merci à vous qui êtes venus physiquement à l'Effray.
Merci Benoît.
Et merci également à tous ceux qui nous suivent sur le flux. Alors, au programme de cet après-midi, on va vous parler du rapport moral, notre activité 2010, et vous demander votre avis sur ce rapport moral. Est-ce que vous pensez qu'on a fait des trucs qui sont pas mal, qui sont améliorables ou qui sont carrément nazes? On vous demandera également votre opinion sur le rapport financier après que notre cher trésorier François nous l'ait exposé. On fera une petite pause avant de vous présenter l'équipe 2011 qu'on vous propose pour le conseil d'administration. On procédera également à une élection. Et enfin, si vous acceptez qu'on prenne la direction de l'association, on vous présentera les perspectives qu'on envisage en 2011 ainsi que le bilan prévisionnel qu'on envisage pour l'année à venir. Alors, le rapport moral de cette année, on l'a découpé en trois chapitres. La vie de l'association, de manière assez générale. Les dossiers institutionnels qu'on a pu investir tout au long de l'année 2010. Et puis enfin, la vie des groupes de travail qui ont une activité extrêmement riche. Alors, un truc que j'ai oublié, c'est qu'il y a eu une élection en ligne avec 1200 votants, le quorum étant à 593, il me semble. Les élections vont être valides au sens de nos statuts. Donc notre AG a donc toute légitimité pour se tenir. Alors, le bilan moral et l'activité de l'association. Alors déjà, combien on a d'adhérents au 31 décembre 2010, on avait 5323 adhérents qui se distribuaient en 4877 personnes physiques, 296 entreprises ou réseaux d'entreprises. Il se trouve qu'on a un certain, la France a la chance d'accueillir un certain nombre de réseaux d'entreprises, d'entreprises aussi bien régionales que par typologie d'activité. Et donc un certain nombre d'entre elles, ces associations, sont membres également de l'APRIL. 137 associations, 5 collectivités locales, 5 départements universitaires, 2 écoles et 1 université. Alors, comme vous avez sans doute déjà dû l'entendre, les adhérents de l'APRIL sont de plus en plus nombreux. Donc, Sébastien, l'un des vice-présidents, nous a fait ce joli graphique qui permet de mettre un peu en perspective l'évolution des adhérents dans le temps, avec une forte croissance. On était autour de 300 il y a quelques années, un pic à 1500 lors de la première campagne d'adhésion, et puis on est passé à 5000 fin 2008, début 2009, avec la deuxième campagne d'adhésion. Alors, comme je vous le disais, on a des adhérents à peu près partout dans le monde. À part la Russie et peu en Asie, on est présent dans pas mal de continents. Et en France métropolitaine, on est présent, là c'est les personnes morales qui sont à votre gauche, et on a au moins un adhérent dans tous les départements français. Et puis les personnes morales à votre droite, où on a une présence répartie un petit peu partout dans le territoire français.
Même en Creuse. Pardon, c'est vrai. C'est pour faire des remarques stupides, hein. On me paye pour ça. Donc. Et donc, en fait, pendant quelques temps, on n'avait personne en Creuse. Et on a 2 adhérents, je crois, en Creuse. Ah, vive la Creuse. Il paraît que c'est très joli, je ne suis jamais allé, mais... C'est juste ça, c'était pour vous dire que on a quand même des... Vous voyez la couleur, hein, plus la couleur est foncée, plus il y a d'adhérents. On s'aperçoit qu'il y a quand même des noyaux durs, évidemment, de libristes. Alors, on s'étonnera...
D'adhérents de l'April, tout du moins.
Oui, au minimum d'adhérents de l'April, mais donc souvent de libristes, quand même, enfin, on espère. Et évidemment, il y a une forte concentration en région parisienne. Et puis, on voit des endroits, par exemple... On voit Toulouse, on voit Bordeaux, on voit des endroits comme ça qui ressortent. On voit Lille, enfin, ça permet de voir aussi qu'on a une population qui est quand même assez urbaine, probablement.
Effectivement, on pourrait faire une étude un petit peu plus statistique pour...
Si quelqu'un veut se lancer.
Absolument, ces données-là sont accessibles. Alors, en termes de répartition socio-professionnelle, le grand triangle bleu, c'est les gens qui travaillent dans l'informatique. Donc on peut remarquer qu'ils sont nombreux, mais ils ne sont pas majoritaires. Alors c'est deux constats. Soit l'April s'ouvre à des gens qui ne sont pas des informaticiens, c'est un des constats. Soit les libristes et les geeks ne font peut-être plus que de l'informatique, mais sont aussi enseignants, étudiants, ingénieurs, puisque c'est les trois autres grandes catégories socio-professionnelles qui représentent les adhérents de l'April. Alors, on a essayé de mettre en place, sur l'impulsion de Loïc Dachary, d'essayer de quantifier l'activité bénévole de tous ces membres de l'April, sous une notion qui s'appelle le bénévolat valorisé. Ça permet de faire rentrer dans nos comptes l'activité bénévole des adhérents. Donc, si vous allez sur votre profil April, april.org/my, eh bien, vous allez pouvoir, on vous invite à rentrer comme ça toutes vos activités bénévoles, ce qui va permettre de représenter, d'un point de vue financier, l'activité des bénévoles. Donc là, c'est l'évolution du bénévolat valorisé dans le temps. Cette année, on est à 4500 heures de bénévolat valorisé. Et François nous parlera tout à l'heure de l'incidence financière que ça a. Enfin, ça passe d'incidence financière, mais c'est une représentation financière en tout cas. Donc on est stable par rapport à 2009. On a un problème avec le bénévolat valorisé, c'est que un certain nombre d'entre nous ne le font pas de manière trop régulière, en commençant par le président de l'association, ce qui est très mal, et je vous invite tous à le taper en sortant pour lui rappeler de remplir son bénévolat valorisé. Alors, on a mis en place un certain nombre d'outils pour mieux se connaître, parce qu'à 5000, c'est quand même plus difficile, notamment pour les administrateurs, de connaître l'intégralité des adhérents, alors que c'était quelque chose qui était envisageable lorsqu'on était quelques centaines d'adhérents. Donc, on essaye de mettre en place des présentations des apriliens deux fois par mois dans le cadre de la lettre interne. On invite un bénévole actif, ou voire suractif, à se présenter, à prendre le temps de se présenter auprès de ses membres, auprès des membres de l'April, ce qui marche relativement bien et ce qui est aussi très intéressant pour faire connaître ses activités bénévoles qui ne sont pas toujours apparentes lorsqu'on a moins le temps de s'impliquer au sein de l'April. Vous avez un autre outil qui s'appelle le trombinoscope, qui vous permet de connaître tous les membres qui souhaitent voir leur profil, qui souhaitent se présenter, voir leur profil apparaître, et on peut comme ça savoir quels sont les adhérents de l'April qui habitent à côté de chez soi, par exemple. C'est assez intéressant. Un autre outil, c'est le Planète April, qui permet d'agréger les différents flux RSS des blogs apriliens qui traitent du logiciel libre. On a une plateforme de microblogging Identica qui est reprise également sur Twitter. Et quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que si vous souhaitez gazouiller cette assemblée générale, on a un hashtag qui s'appelle AGApril. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires de l'AG, à le partager sur les plateformes de microblogging. Et puis enfin, il y a une initiative d'un adhérent de l'April qui s'appelle Bonjour April. Tous les matins à 10h, une nouvelle photo sur l'activité de l'April ou sur ceux qui font l'activité de l'April. Donc c'est un petit rendez-vous matinal bien agréable pour aussi apprendre à mieux se connaître. Alors, le conseil d'administration de 2010, donc on vous a mis les photos ici, et je vous propose qu'on essaie de se répartir un petit peu la parole pour que chacun se présente et dise ce qu'il fait à l'April. Donc Tanguy Morlier, président de l'April. On va décliner par rôle peut-être les vice-présidents. Benoît Cibot, tu veux te présenter? Non, oui. Benoît Cibot. Jean-Christophe Becquet, vice-président également. Un petit mot ou...
Je prendrai la parole tout à l'heure sur le groupe de travail sensibilisation.
Voilà, pour les gens qui nous écoutent sur Internet, il prendra la parole tout à l'heure sur le groupe sensibilisation. Un autre vice-président, Sébastien Dino. Ouais. File le micro peut-être.
Par rapport à une remarque qui vient de faire récemment, selon laquelle l'April...
Oui. Encore récemment, j'ai lu une remarque d'un adhérent qui reprochait à l'April son parisianisme. Il y a beaucoup de membres du CA de l'April qui ne sont pas à Paris, et il y en a notamment 3 à Toulouse.
Et donc voilà, Sébastien Dino, pour ceux qui nous écoutent sur Internet, toulousain, c'était la première remarque que tu faisais.
Vice-président.
Lionel Allorge, notre secrétaire.
Donc bonjour à tous, on s'est déjà vu, donc secrétaire de l'April. Et je m'occupe aussi d'aider Jean-Christophe Becquet à animer le groupe Sensibilisation dont on vous parlera un peu plus tout à l'heure.
François Poulain, le trésorier.
Oui, bonjour, donc je suis trésorier et j'en parlerai tout à l'heure.
Et tu fais plein d'autres trucs, dont un groupe.
Ah oui, il faut que je me présente.
Ouais, bah juste.
Je coordonne le groupe accessibilité au sein du CA. J'étais ancien animateur de groupe sensibilisation, et puis je fais quelques autres trucs. Ouais, je suis aussi actif sur les dossiers institutionnels, etc. Voilà. Merci.
Benjamin, le vice-trésorier. Je vois pas. Ah, il est là-bas, derrière la porte. Un petit mot ou non ?
Juste un petit mot pour dire
bonjour. Bonjour, donc je m'appelle Benjamin Drieu, je suis trésorier adjoint J'étais trésorier titulaire jusqu'à l'année dernière, jusqu'à ce que François me remplace. Voilà, et sinon, je m'occupe d'autres choses, notamment le système d'information de l'April, et voilà.
Merci. Anaïgue. Donc, administratrice depuis un an.
Bonjour, je suis Anaïque Denis, je suis administratrice de l'April depuis un an et je suis issue de la communauté du logiciel libre à Nantes, et en particulier de Linux Nantes, où on a organisé les RMLL en 2009. Voilà. Et actuellement, je suis chargée de mission à Alliance Libre, le pôle des professionnels du libre à Nantes.
Alexis Monville, là-bas. Ah oui, c'est les anonymes, là-bas.
Tu es complètement anonyme, mais tu viens de donner ton nom quand même. Ça marche.
Jérémy Zimmermann.
Bonjour, merci. Je suis Jérémy Zimmermann. Je suis un tout petit peu membre du CA, mais pas assez du tout. Parce que par ailleurs, je suis cofondateur de la Quadrature du Net et porte-parole, donc pas mal de taf. Et j'ai obtenu. De haute lutte de pouvoir vous faire un petit brief tout à l'heure sur l'ACTA. Donc on parlera. Et je vais chanter Brassens tout à l'heure.
Ah oui, ce soir, ne manquez pas ça. Luc, qui est juste devant Jérémy. Ah.
Donc Luc Fievet, je suis depuis 2 ans au CA. Je m'occupe notamment de la revue de presse avec... Manu ici, on fait un podcast hebdomadaire. Voilà, et j'interviens un peu sur sensibilisation, un peu sur RTFM, qu'on va relancer probablement prochainement. Et voilà, sur différents sujets.
Nicolas n'est pas avec nous cet après-midi. Alors, depuis combien de temps il est au CH ? Je crois que c'est 3 ans. Il a notamment pas mal agi pour décliner candidat.fr en Belgique sur candidat.be. Il est belge, bruxellois. Olivier.
Bonjour, je suis Olivier Fraisse. Je suis de l'association Ubuntu.fr.
Il faudrait au moins il faut bouger les lèvres pour. Pour paraître ventriloque.
Et j'étais là pour dire que Ubuntu, ça rocks, quoi. Voilà.
Merci, Kouesh, d'être son porte-parole. D'être le porte-parole d'Olive. Philippe. Ah ben, il est juste devant Kouesh.
Philippe Paris, je suis membre du CA et je suis originaire de Lille.
Rémi, qui est tout devant.
Bonjour, Rémi Boulle, donc je suis membre du CA aussi, de Toulouse. Il n'y a pas de complot derrière. Et je m'occupe plus particulièrement des questions d'éducation.
Réna, qui n'est pas parmi nous, qui s'est beaucoup impliquée sur diversité au début de l'année, qui était basée...
Et sur sensibilisation aussi.
Sur sensibilisation aussi, pardon, et qui est basée en Allemagne. Et Thomas, qui n'est pas non plus parmi nous, ça fait partie du noyautage toulousain de l'April, qui est notamment en charge de Libre en Fête.
Libre en Fête. Et comme on disait, il y a pas mal de Toulousains, mais c'est aussi parce qu'il y a une grosse communauté d'informaticiens à Toulouse. Pourquoi, on se demande, hein. Faudrait faire une étude sociologique. Juste l'aérospatiale, c'est ça ? Bon, on va passer à la suite.
Alors, on a aussi une équipe de permanents tout à fait remarquable.
Alors, c'est là où ça se passe.
Qui est dirigée par Frédéric Couchet, le délégué général de l'April, ancien président également. Bonjour, Fred. Juste pour
présenter. D'accord. Ben, bonjour à tous. Donc, Frédéric Couchet, délégué général de l'April.
Merci. Ensuite,
on a une assistante de direction formidable, Eva Mathieu, qui... parti.
Je vous promets que cette année, je m'en vais.
Merci.
Effectivement, l'année dernière, pour ceux qui étaient présents à l'AG, Eva avait fait part de son souhait de rejoindre son amoureux dans le sud de la France. Et à la fin du mois, son souhait va devenir réalité. Donc, Eva, merci beaucoup pour tout le travail que tu as accompli durant toutes ces années pour l'April. Je pense que c'était vraiment une super chouette aventure. Et pour remplacer Eva, depuis le 1er janvier 2011, on a la chance d'accueillir Aurélia Giraldi, qui est juste devant Eva. Aurélia, tu veux dire juste un mot pour qu'on...
Bonjour, moi c'est Aurélia, je vais donc remplacer Eva et voilà.
Eh bien, j'ai déjà eu l'occasion de te le dire en privé, mais bienvenue à l'April, Aurélia. J'espère que tu vas t'amuser autant qu'on le fait. Alix Cazenave a été notre chargé des dossiers institutionnels pendant les 4-5 premiers mois de l'année. Elle a trouvé d'autres opportunités professionnelles et on a la chance depuis avril d'accueillir Jeanne Tadeuse à ce poste. Bonjour Jeanne.
Donc bonjour à tous, je suis Jeanne Tadeuse et donc je suis responsable des dossiers institutionnels et des affaires publiques depuis avril dernier.
Voilà donc pour l'équipe de permanent. Merci à Alix, même si elle ne peut pas être présente ce week-end, étant partie en week-end à la campagne. Mais elle a fait un super boulot, on a déjà eu l'occasion de lui le dire maintes fois, mais je pense que l'expression de ce bilan moral, l'exposé de ce bilan moral peut être aussi l'occasion de lui rendre un hommage. Donc même si elle n'est pas là, on peut quand même l'applaudir. Alors dans la vie de l'association, il se trouve que pour accueillir tous ces permanents, on a des locaux. On a été accueillis par la CRAJEP, un réseau d'associations boulevard passionnaire pendant 3 ans, il me semble. Il se trouve que la CRAJEP a dû déménager et qu'on n'a pas pu les suivre. Alors du coup, on a eu des locaux itinérants. On a été accueillis par l'un de nos adhérents qui s'appelle Infoclip.
C'est pas forcément utile que tu vous relanciez à chaque fois. Oui, je comprends, mais... C'est gentil, merci. En fait, les gens d'Infoclip, gentiment, nous ont prêté un grand bureau, plutôt sympa, dans un open space, juste à côté de la Villette. Et c'était
vraiment sympa. Et merci à eux, parce qu'effectivement, ouais, ils nous ont évité de travailler...
dehors, dans la rue.
...sous un pont. Donc, je pense que...
Parce qu'on s'est fait un petit peu avoir. On peut dire deux mots de ça, peut-être ? Enfin, avoir, c'est beaucoup dire. On espérait suivre la CRAJEP qui a déménagé et il y a eu des problèmes donc pour pouvoir
liés à des clauses dans un bail.
Oui, des clauses dans le bail qu'ils avaient fait. On espérait pouvoir les suivre et sous-louer une partie de leurs locaux. Comme ça avait été fait avant, ça n'a pas pu se faire et on s'est retrouvé un petit peu au pied du mur à devoir héberger nos 3 permanents. Et donc, cette société, donc, gentiment, les a hébergés pendant près de 4 mois, je crois. Donc, voilà, c'était sympa de leur part. Et maintenant, il y a des nouveaux locaux qui viennent d'être pris en charge.
On a signé le bail cette semaine.
Voilà, donc c'est tout frais. Et ils sont... Alors, c'est l'adresse très huppée qui va faire un petit peu bizarre pour certains de l'April, mais on est rue de Rivoli. Dans un superbe immeuble pierre de taille, voilà, enfin c'est... Ah ouais, alarme, vidéo surveillance, oui, vidéo protection, enfin tout le bazar.
Et bon, ça fait un peu peur. On est en face du squat artistique.
Voilà, on est en face du Du squat, bah vas-y, pardon.
Du 59 rue de Rivoli. Donc c'est aussi très pratique pour trouver les locaux de l'April. C'est, si vous connaissez ce...
Il y a une photo sur Bonjour April.
Ah ouais, d'aujourd'hui ou...
Hier ou avant-hier.
Ok, bon, j'essaierai de la retrouver tout à l'heure. Mais donc c'est aussi facile de retrouver le local de l'April. C'est juste en face du bâtiment où il y a des œuvres d'art qui pendent...
aux fenêtres.
Aux fenêtres. Donc c'est un lieu qui est assez cool, même si c'est vrai qu'il y a c'est assez institutionnalisante. Parmi les outils, l'outil que développé en interne à l'April est mis à disposition sur GNA, dont on doit remercier le contributeur principal, Benjamin, notre trésorier adjoint, qui vous permet de gérer un petit peu tout ce qui est tâches administratives.
Il se cache là-haut derrière la porte, mais il n'y a pas à avoir honte. Hein. C'est pas parce qu'il y a 2-3 bugs qu'il faut...
Donc merci Benjamin.
Merci à Benjamin.
Et puis dès que vous avez un petit problème administratif, il y a possiblement un outil qui pourra vous permettre de le résoudre. Et puis après, le secrétaire et les assistantes, enfin Aurélia, l'assistante de direction, sont aussi hyper réactifs pour vous aider et vous guider à réaliser ce que vous voulez faire au niveau administratif.
C'est surtout l'assistante de direction qui travaille beaucoup, parce que moi, je ne fais pas grand-chose.
Si ce n'est
de temps en temps, envoyer un mail en disant « je ne comprends pas, ça n'a pas été fait ». Mais sinon, c'est quand même...
C'est ton côté père-fouetteur.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Et je viens avec ma batte de baseball et tout ça. Et donc, en fait, c'est vraiment elles qui font le gros du travail. Et donc, c'est à elles que vous aurez affaire si vous avez un petit problème avec votre adhésion, avec le paiement de votre cotisation. Et elles font un énorme boulot qui ne se voit pas beaucoup, sauf le jour où vous avez besoin d'avoir besoin de leur aide.
Donc, l'assistante de direction, c'est un boulot aussi ingrat qu'administrateur système. C'est qu'on se rend compte de leur existence le jour où on a un problème. Donc... voilà, soyez gentils avec elles. Elles font un travail essentiel pour la vie de l'April. Notre feuille de route, on va la décliner un petit peu plus en détail dans l'expression des différents dossiers de cette année. Les dossiers phares, c'est évidemment les DRM, les brevets logiciels, la vente et l'informatique déloyale. Éducation, un gros boulot réalisé par le groupe de travail Rémi nous en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Interopérabilité, format ouvert avec l'actualité européenne, j'y reviendrai aussi. Accessibilité avec le travail réalisé également par le groupe de travail, sensibilisation, communication. Et puis quelques dossiers émergents cette année, diversité sur lequel on ne s'était pas vraiment intéressé, où on commence à monter en compétences et c'est une très bonne nouvelle. Et marché public aussi qu'on a commencé ce dernier trimestre et qui commence à faire parler de lui aussi, donc c'est plutôt... bon signe. Dans la vie de l'association, il y a des petits trucs qui font plaisir, comme le boulot fait par sensibilisation pour essayer de trouver des outils de communication qui permettent juste d'alpaguer quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du logiciel libre et lui donner une excuse de lui parler de ce qui est vraiment cool dans l'informatique libre. Et notamment les t-shirts, c'est vrai que le t-shirt que nous avait confectionné Jérémy Zimmermann, qu'on doit remercier pour quand même cette contribution historique. Cette contribution historique à l'April, mais c'est comme toute contribution historique, pour qu'elle devienne vraiment historique, il faut qu'il y ait un remplaçant. Et donc Antoine Bardelli nous a confectionné un t-shirt qui va sortir cette année. Ça a été un boulot pas forcément très visible et qu'il sera, j'espère, beaucoup plus sur vos torses cette année, 2011. On a mis aussi en place des systèmes d'audioconf qui permettent d'essayer de casser cette image parisianiste et essayer de faire dialoguer des gens répartis partout en France. Donc on utilise IRC, le protocole de discussion instantanée. Et également l'audioconférence. Donc il y a plusieurs groupes de travail qui l'utilisent pour se réunir. Et puis au CA, on a des réunions de travail à 7h30 une fois par mois pour parler des dossiers institutionnels. Et...
7h30 du matin.
Oui, 7h30 du matin.
Non, ça rigole pas.
Et donc les gens qui ne sont pas à Paris ou ont des difficultés pour des raisons professionnelles de venir à 7h30 le matin et ben, peuvent assister à ces réunions par téléphonie, par conférence téléphonique. Les légendaires poissons d'avril de l'April. Donc cette année, on a même eu la chance d'en avoir deux. L'April devient adulte, une tribune de Frédéric Couchet pour le 1er avril. Et puis un hommage à une grande ministre de la culture française, Christine Albanel. Donc voilà, c'était l'histoire de...
La pauvre, elle était en service commandé, hein, donc... Elle a fait ce qu'on lui disait de faire. Désobéissance civile.
Et puis on a eu la chance aussi d'avoir des étudiants qui ont travaillé autour du libre avec un projet qui s'appelle Super Geekette. Voilà, parmi les choses qui sont agréables au quotidien, pas forcément toujours très visibles, mais qui sont assez sympas. Alors, là, il y a Frédéric Couchet qui va nous parler d'une des petites révolutions de l'année 2010, qui est sa découverte d'un outil révolutionnaire, OrgMod, et puis de son application un peu plus généraliste avec les revues hebdomadaires, tous les vendredis à 12h. Qu'est-ce que c'est que ces revues hebdomadaires et ce GTD ?
Alors GTD, effectivement, en fait, c'est des méthodes d'organisation et de démarche qui sont basées vraiment sur l'action. Et moi, j'utilise un outil sous l'environnement le plus libre et le plus performant au monde qui s'appelle évidemment GNU Emacs. Et dans cette méthodologie, en fait, qui est vraiment basée sur l'action, il y a un point précis, c'est toutes les semaines de faire une revue hebdomadaire. C'est-à-dire pas simplement de définir des actions, mais régulièrement, chaque semaine, de les revoir. Donc j'ai proposé en fait à l'April, il y a quelques mois, de faire une revue hebdomadaire sur le salon IRC de l'April, qui est disponible via IRC et via un web. Et donc pendant 20-30 minutes, les actifs, les permanents, sont réunis sur IRC et on passe en revue les actions passées de la semaine, les actions à venir, les points de blocage actuels. Donc ça permet en fait de voir ce que les gens font, de faire remonter éventuellement des points de blocage que l'on peut régler. Et ça permet à des gens qui n'ont peut-être pas forcément des idées de contribution d'être présents, et d'avoir tout d'un coup l'idée de pouvoir, par exemple, faire une relecture, faire un coup de main aux administrateurs système. Et à la fin de la revue hebdomadaire, en fait, une synthèse est publiée sur les listes internes. Donc ben voilà, on a fait telles actions passées, telles actions à venir, les points de blocage levés existants. Et on a constaté en fait que les gens étaient vraiment agréablement, enfin trouvé la démarche vraiment agréable. Et cette année, on a fait une revue annuelle. C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a deux semaines, je crois, une grosse revue annuelle pendant une heure et demie. Ce qui a permis en fait de lancer de nouvelles actions. Donc si vous n'avez pas d'idée de contribution à l'April, si vous voulez savoir ce que font les actifs de temps en temps, c'est simple. Le vendredi à midi, vous allez sur le salon IRC de l'April. Donc c'est via l'April sur Freenode ou par le web chat. Et là, vous verrez les gens qui font leur revue hebdomadaire. Et n'hésitez pas à poser des questions ou à simplement faire des remarques.
Voilà. Ou si vous ennuyez le vendredi à midi, ça arrive à beaucoup de gens, je crois. N'hésitez pas...
Plutôt que d'aller manger,
plutôt que de faire la revue hebdomadaire. Voilà, c'est ça. C'est le choix que fait Fred tous les vendredis. Il ne va pas manger le vendredi par nourriture intellectuelle de participer à la revue hebdomadaire et à l'animé.
Je voulais juste préciser que cette revue hebdomadaire, elle est bien sûr conservée sur le site de l'April, dans une partie du site qui est un gestionnaire de projet et qui permet d'aller retrouver au fur et à mesure les différentes actions. Pour l'instant, c'est mis simplement en ligne. Mais on espère pouvoir au fur et à mesure donc le mettre dans un outil qui permettra de le gérer plus efficacement, mais en tout cas on les conserve de manière à garder un historique de tout ce qui se passe, parce que un des points qu'on a constaté, c'est que beaucoup d'adhérents faisaient des choses, y compris dans les régions, et que nous on n'était pas forcément au courant de ce qu'ils faisaient, et qu'au bout d'un moment on perdait le fil de tout ce qui se faisait. C'est normal, parce que les quelques bénévoles que nous sommes, on n'arrive plus à suivre forcément ce que font 5000 adhérents. Donc voilà, l'idée, c'est que si vous êtes actif de votre côté pour l'April, faut surtout penser à nous faire remonter l'info, parce que voilà, faut pas penser qu'on l'aura forcément, faut pas hésiter à nous la faire remonter.
Un truc aussi qui est vraiment cool, les pique-niques de l'April. Organisé sur Paris et diffusé partout en France par notamment Magali d'eBookinet sur IRC, qui fait un super boulot là-dessus et qui fait que l'April, c'est aussi une association conviviale, pas que de geeks qui se réunit sur Internet, mais on se réunit physiquement pour manger du fromage, du vin, etc. Donc c'est
manger du vin
et... voilà, manger du vin et boire du
et
fromage.
Boire du fromage.
Donc, ça, si vous suivez un petit peu, si vous avez, si vous habitez en région et que vous avez envie de connaître les apriliens à côté de chez vous, c'est à partir du moment où il commence à faire un petit peu beau, n'hésitez pas à proposer l'organisation d'un pique-nique aprilien. C'est une bonne manière de se rencontrer aussi et de mieux se connaître.
Je vais en dire deux mots, si tu permets. Je vais juste préciser que si vous ne connaissez pas d'autres apriliens autour de chez vous, vous pouvez nous envoyer simplement un petit message, vous l'envoyez à moi, au secrétaire, et on fera une recherche, nous, dans la base, pour vous mettre en contact avec d'autres gens qui sont dans votre région.
Et qui souhaitent être contactés.
Et qui souhaitent être contactés, bien sûr, puisque certains ont dit qu'ils ne veulent pas être contactés. Mais en tout cas, on pourra envoyer votre message aux autres apriliens, parce que tous ne sont pas dans le trombinoscope ou dans l'annuaire des membres. Mais nous, on peut l'envoyer un message à tous ceux qui sont dans une région pour leur dire, voilà, telle personne souhaite organiser un petit événement festif autour de chez lui. Et ça, ça permet des fois de s'apercevoir qu'il y a d'autres personnes intéressées par ces sujets-là, peut-être pas loin de chez vous. Moi, ça m'est arrivé d'en découvrir dans ma commune à côté de chez moi, et j'avais évidemment jamais entendu parler d'eux avant. Donc voilà, c'est un bon moyen aussi de connaître un petit peu les gens qui sont dans son secteur.
Traditionnellement, au début de chaque année, on fait nos vœux. Ayant une activité assez forte institutionnelle, c'est traditionnel dans ces milieux-là. Et donc, voilà, comme chaque année en 2010 et puis au début d'année 2011, voici nos cartes de vœux. On a décliné cette année la superbe affiche faite par Antoine sur partager les logiciels libres dans l'éducation. Et puis l'année dernière, Alexis, de souvenir, avait pas mal contribué. Il y avait plein de contributions internes du CA pour créer cette carte. Et puis une gestion incroyable de notre assistante de direction pour gérer tout ça. Donc c'est aussi une bonne idée pour véhiculer le travail qu'on fait au quotidien et rappeler ce travail auprès de nos contacts institutionnels.
Et des membres actifs
cette année, effectivement, on a voulu aussi remercier certains membres actifs en leur envoyant nos voeux par courrier. Alors en 2010, quels ont été les dossiers sur lesquels on a été actifs? Alors on les a triés par ordre alphabétique, et par ordre alphabétique, Jérémy Zimmermann débute. Lui qui l'a lourdement insisté avec justesse, parce que c'est vrai que ça a été, on a beaucoup travaillé avec la Quadrature sur ACTA, cet accord international anti-contrefaçon. Ça a été un projet qui était hyper bien pour ça, c'est qu'on a mené des actions conjointes avec la Quadrature, et ça c'est assez logique vu l'implication de Jérémy aussi bien à la Quadrature qu'à l'April, mais également avec ACT UP Paris, Oxfam. Donc Jérémy, je te laisse deux minutes pour nous rappeler ce qu'on a fait en 2010.
Top chrono. Alors l'ACTA, c'est donc, comme tu l'as dit, l'accord commercial anti-contrefaçon, donc un accord multilatéral et non pas international, entre 39 pays, dont les 27 de l'Union européenne représentés par la Commission et un petit bout du Conseil, et on en discutera si vous voulez les détails. C'est une sombre saloperie qui, dès le début, fait l'amalgame entre la contrefaçon de faux produits, de faux médicaments, de fausses pièces de bagnole, avec ce qu'ils appellent piracy, avec la copie de fichiers, et qui, depuis le début, vise à imposer une vision ultra-maximaliste de la lutte contre donc, la copie de fichiers, avec pour conséquence de faire pression sur les intermédiaires techniques de l'Internet, jusqu'à les transformer en une police privée du copyright sur Internet. Donc, des conséquences extrêmement graves pour la liberté d'expression sur Internet, pour le respect de la vie privée, pour la liberté fondamentale, pour le droit à un procès équitable, mais aussi des conséquences sur le logiciel libre, parce qu'au passage, dans l'ACTA, il y a le bétonnage, si j'ose dire, des dispositions relatives au DRM, qui sont par exemple celles de la DATSI ou du DMCA américain, la directive EUCD. Donc si l'ACTA est adopté en l'état, ça veut dire qu'il sera virtuellement impossible de revenir sur la DATSI en France ou sur l'UCD en Europe, alors qu'on attend toujours l'étude d'impact et qui n'a jamais démontré son efficacité, et donc il est grand temps de la dégager. Vu qu'il me reste une trentaine de secondes, je vais vous dire que pour 2010, donc, on a notamment démasqué les négociateurs français, on est allé discuter avec eux, on allait faire beaucoup de foin, on est allé faire en sorte que les eurodéputés prennent position sur l'ACTA, des députés français prennent position également. Et le texte, la négociation a été conclue en novembre, un texte publié en décembre. Donc là, il est le grand moment de publier nos analyses du texte, notamment celles relatives au logiciel libre, sur lesquelles on va peut-être bosser avec Jeanne, pour exposer les dangers de l'ACTA. Et le Parlement européen, ça fait 2 minutes et je conclue en 15 secondes, le Parlement européen aura l'occasion de se prononcer par oui ou non, oui ou merde, à l'ACTA, dans un vote qui prendra place autour de l'été, à partir de mai, et voilà, de mai à plus l'infini. ACTA est la plus grosse menace que l'on ait jamais vue sur nos libertés individuelles et sur Internet. La plus grosse. On a vu d'énormes dossiers, des trucs monstrueusement affreux. Ça, c'est pire. Et on a eu une occasion historique de le défoncer. Bon, je vous parle avec Gibus, je crois qu'il a une autre idée. Mais on a une occasion historique de le défoncer au Parlement européen, et ce sera autour de l'été, et tous... Et toutes, ici, vous avez un rôle à jouer dedans. Je compte sur vous, on en reparlera.
Merci Jérémy. Effectivement, en plus des dangers purement logiciels libres sur les DRM, il y a un vrai problème, un vrai problème démocratique là-dedans. C'est qu'il y a des gens qui négocient à huis clos des choses pour notre avenir numérique. Et les instances démocratiques ont comme seule option de dire oui ou non. C'est-à-dire qu'il faut accepter totalement. Et si jamais on accepte, cette acceptation peut être révisée à tout moment par ces 5-6 personnes qui négocient notre avenir numérique dans l'ombre. Donc il y a un problème technique, les DRM, et en plus il y a un problème idéologique de la gouvernance du logiciel libre assez transparente qui ne s'applique absolument pas dans cet accord démocratique. On a également pas mal suivi l'agenda numérique européen. Vous avez sans doute vu qu'il y a eu une nouvelle commission européenne avec une nouvelle commissaire chargée de la société de l'information, Nelly Kroes, qui a travaillé sur un agenda numérique pour la durée de son mandat. Et en interne, elle voulait pousser l'interopérabilité et notamment les formats ouverts. Donc on était plutôt contents de ce projet. Malheureusement, il y a eu d'énormes tensions au sein des différentes directions générales pour retirer les standards ouverts, ce qui nous a fait réagir en amont pour essayer d'infléchir et donner plus de poids à la commissaire européenne. Malheureusement, le poids n'a sans doute pas été assez fort. On a eu des rendez-vous avec différentes DG, donc celle de la société de l'information et celle de la compétition. Et malheureusement, le compromis final n'acte pas de décision claire sur les standards et les formats ouverts. Le compromis qui a été dealé, c'est qu'on n'écrit pas format ouvert, mais par contre, la commissaire s'engage à en parler régulièrement à condition qu'il n'y ait pas de conséquences écrites. Donc c'est un truc bâtard comme ça.
Tant qu'il n'y a pas de traces, elle veut bien parler.
Bon. On a chance d'accueillir à l'April quelqu'un qui travaille depuis très longtemps sur les brevets logiciels. Et il se trouve que cette année, il a fait un travail remarquable de veille sur les brevets logiciels qui portent leurs fruits en ce moment même, puisqu'on voit le dossier réapparaître au Parlement européen. Donc Gibu, je te laisse la parole pour nous présenter un peu ce travail que tu as pu initier au sein de l'April et nous faire mieux connaître des décisions comme celle de la Grande Chambre ou de la Cour suprême américaine.
Merci. En effet, il se passe quelque chose sur les brevets logiciels. Ça fait maintenant 6 ans qu'on a réussi à défaire une directive qui avait pour but de les légaliser en Europe. Elle a réussi à faire un lobbying intense au Parlement européen pour ne faire rejeter cette directive. Et depuis, on faisait de la veille, on regardait ce qui se passait, on voyait qu'il y avait des décisions qui étaient en train de mûrir, des travaux notamment au sein de l'Union européenne, pour que unifier les juridictions qui s'occupent d'appliquer les brevets, c'est-à-dire que lorsqu'on a déposé un brevet, ensuite on essaye de poursuivre en justice d'éventuels contrefacteurs. Eh bien, il y avait des travaux au sein de l'Union européenne pour unifier les justices de tous les États, pour qu'il y ait un seul tribunal qui décide. Donc ça se déroulait très doucement. Et puis, l'année dernière a été une année charnière, en fait. Il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a eu, d'une part, l'Office européen des brevets, qui est en dehors de l'Union européenne, qui a rendu un avis en disant que c'était pas à lui de décider si les brevets logiciels étaient légaux ou pas, c'était au législateur de le faire. Très bien. Le législateur, donc, pendant ce temps-là, essayait de travailler à une juridiction unifiée, puis ils sont arrivés à un blocage. Ça fait 30 ans qu'ils essayent de travailler sur, en fait, une unification des juridictions et du brevet, en gros, et 30 ans qui bloquent sur surtout des questions de langue, comment est-ce qu'on traduit les brevets, est-ce qu'on est obligé de les traduire dans toutes les langues de l'Union européenne, etc. Étant arrivé à un blocage, cette fois-ci, ils décident d'accélérer et ils passent dans ce qu'on appelle une procédure de coopération renforcée, où l'Union européenne, qui sont pour avancer ensemble, décide de créer un petit groupe et puis de continuer à légiférer là-dessus. Et c'est ce qui va se passer cette année, et c'est ce qui est très important. Alors, sans diminuer ce qu'a dit Jérémy, les brevets logiciels, on le sait, c'est l'un des plus gros dangers pour le logiciel libre. Si, en Europe, on arrive à légaliser les brevets logiciels, vous n'arriverez plus à écrire une seule ligne de code sans avoir peur que tombe sur vous la menace d'un brevet. C'est ce qui se passe déjà aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu du changement aussi en 2010 avec un arrêt de la Cour suprême qui remet en cause justement la juridiction unifiée qui est déjà en vigueur là-bas, qui s'occupe de tous les procès sur les brevets. Et en Europe, je reviens sur ce qui va être très important cette année, c'est qu'on a essayé d'impulser depuis un mois et demi, beaucoup avec Jeanne et puis quelques autres qui ont filé des coups de main. La question, on a essayé de la porter auprès des députés européens pour qu'ils sachent bien de quoi on parle, pour qu'ils ne voient pas le sujet leur filer entre les mains parce qu'il est commandité par les industries et les avocats qui veulent renforcer les brevets. Donc on a essayé de repousser au plus loin la décision qui pour le moment est juste une décision de procédure, la coopération renforcée dont je vous ai parlé en 10 secondes tout à l'heure. Et aux alentours du mois de juin, par là, la coopération renforcée va se mettre en œuvre et il va y avoir une législation sur les tribunaux en Europe qui vont juger des brevets. Et là-dessus, on a une chance incroyable. Il faudra faire gaffe, il faudra se préserver de la menace que les brevets logiciels soient validés comme ils le sont actuellement par l'Office européen des brevets, mais qu'ils le soient également en justice. Mais c'est aussi une occasion pour nous de faire rentrer dans la loi le fait que le logiciel ne peut pas être breveté. Donc ça se passera à peu près juste après ACTA, au mois de juin, voire à la rentrée en automne. Le calendrier est encore vachement incertain. Et là, on aura énormément besoin de vous. Ça va être une grosse bataille. On commence à planter des petites graines pour faire germer, mais on aura besoin que vous contactiez les députés, que vous nous aidiez à expliciter de mieux en mieux les textes, que tout soit très clair, parce que c'est assez simple, finalement. On ne veut pas de brevet logiciel, il faut l'écrire. C'est tout. Merci.
Merci, Gébus. Alors, sur les dossiers DRM et informatique déloyale, on l'a senti déjà avec l'ACTA, on a fait pas mal de choses. Il se trouve qu'avec l'accueil de Jeanne, a été entrepris à son initiative un travail de rétrospective et on a publié une synthèse. Pardon, alors là, c'est les rétrospectives. Excusez-moi, je confonds tout. Rétrospective, c'est en début de chaque année, on essaye de faire un panorama annuel de l'actualité autour d'une thématique. Donc on a publié début 2010 la rétrospective 2009 sur les DRM. Donc si vous avez envie d'avoir un peu d'actualité là-dessus, c'était un travail tout à fait intéressant. Il y a eu la journée mondiale contre les DRM. Et je disais, l'arrivée de Jeanne nous a permis de publier une synthèse sur nos positions par rapport au DRM. Donc ça, c'est un bel apport de Jeanne. En plus de son analyse de la décision de la bibliothèque du Congrès américain qu'on a publié aussi. Donc il y a pareil un beau travail d'analyse et de veille là-dessus, en plus de nos actions autour de des DRM. Et puis en fin d'année, on a écrit une lettre ouverte pour sensibiliser WWF sur leur campagne qui visait à faire la promotion des DRM, ce qui était un petit peu malvenu de leur part, juste par ignorance. Donc c'est un petit peu notre rôle aussi de créer des ponts entre des mondes qui pour l'instant s'ignorent encore. L'actualité européenne, on l'a déjà senti un petit peu sur les autres dossiers, mais il se trouve que on a répondu à deux consultations et apporté nos soutiens à la quadrature sur la neutralité du net. Donc stratégie pour l'Europe en 2020, où on a fait 15 recommandations en essayant de positionner le logiciel libre dans cette stratégie européenne. Et puis sur les contenus créatifs en ligne, essayer de sensibiliser la Commission sur les DRM et l'interopérabilité. On a, avec l'arrivée de Jeanne, une présence un petit peu plus régulière et on pense qu'elle va se renforcer à la Commission et au Parlement. Donc c'est plutôt bon signe, ça faisait partie aussi de nos objectifs cette année. Et puis on a participé modestement à la création d'un intergroupe logiciel libre au Parlement européen. Donc c'est un outil qui existe maintenant et qu'on va essayer d'activer le plus régulièrement possible, comme on essaye d'activer aussi nos contacts candidats Free Software Pact, les élus députés européens que vous avez pu contacter lors de la campagne des élections européennes. Entreprise, économie et innovation, pareil, on a fait une rétrospective qui a été publiée début 2010, qui retraçait un petit peu les grandes tendances de 2009 sur le sujet. Une étude assez intéressante sur l'innovation en France dont on n'a peut-être pas assez fait la publicité, c'est avec Tarsus, l'organisateur du salon GNU Linux, qui est venu nous voir pour faire une étude, et on leur a proposé d'essayer de quantifier l'apport du logiciel libre dans l'innovation informatique française. Donc on a fait une liste de toutes les technologies qui étaient possiblement utilisées pour innover, qu'elles soient libres ou propriétaires. On a interrogé 600 entreprises qui faisaient du logiciel libre ou du logiciel propriétaire, et il sort que 90% des entreprises qui disent innover en informatique en France utilisent du logiciel libre, y compris, malheureusement, pour ne pas faire que du logiciel libre, mais ça permet quand même de quantifier l'apport du logiciel libre en termes d'innovation et sans doute participer à sa meilleure valorisation par les institutions françaises. On a eu plusieurs reprises du livre blanc des modèles économiques par différents organismes, dont Silicon Valley, et Jean-Christophe Becquet a participé à son inauguration, à sa remise aux partenaires du Sud-Est. Et on a des réunions régulières après l'entreprise pour essayer de dialoguer avec les entreprises, voir si il y a des choses pour lesquelles on peut les aider, et puis également leur faire part de nos activités les intéressant sur leur sujet, puisque c'est aussi une des particularités des entreprises, c'est que c'est un peu plus complexe de diffuser l'information au sein d'une entreprise peut-être qu'avec nos membres citoyens. Un des dossiers qu'on investit de plus en plus, c'est les marchés publics, notamment à l'initiative de Jeanne, qui a beaucoup travaillé dessus ce dernier trimestre 2010. Donc je laisse la parole pour présenter la campagne de sensibilisation qu'on mène en collaboration avec le CNLL qui s'est créé aussi cette année, qui est une association nationale d'entreprises liées au logiciel libre.
Donc l'idée sur cette campagne, c'était vraiment de sensibiliser, parce qu'on est parti d'un constat simple qui est partagé par beaucoup d'entreprises, c'est que souvent, quand ils veulent répondre à un appel d'offres public,
Simplement, ils ne peuvent pas parce qu'ils exigent une technologie propriétaire, qu'ils exigent un logiciel précis. Donc l'objectif, c'est de les informer, bon, déjà sur le fait que c'est illégal, et aussi sur le fait que finalement ils se privent de beaucoup d'alternatives et de logiciels qui pourraient être potentiellement très intéressants pour eux. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a publié des ressources sur le site de l'April, on rencontre régulièrement des élus, et notamment des élus locaux, pour leur expliquer le problème et les enjeux. Et on essaye aussi de plus en plus de parler aux entreprises pour qu'elles aussi puissent faire une démarche, plus au cas par cas, qu'un marché pourrait les intéresser, pour qu'elles puissent simplement dire à la collectivité que le marché, il n'est pas très légal tel qu'il est écrit, et qu'il y a d'autres solutions qui existent, et que ce serait bien qu'elles envisagent aussi ces solutions-là. Sur les marchés publics, on a aussi travaillé sur le sujet parce qu'il y a eu plusieurs décisions juridiques importantes qui ont eu lieu en 2010, notamment au Québec et en Italie. Alors au Québec, c'était une entreprise savoir-faire Linux qui attaquait un marché de la régie des ventes. Et finalement, le juge leur a donné raison sur toute la ligne en disant que c'était complètement anormal qu'on exige du Microsoft et qu'on considère que ce soit forcément du Microsoft et qu'on aurait dû avoir un appel d'offres qui soit vraiment ouvert et que savoir-faire Linux aurait dû pouvoir candidater. En Italie, c'était une décision un peu semblable. Et le troisième point sur lequel on a travaillé sur les marchés publics, c'était sur la question de la ville de Marseille. Parce que la ville de Marseille avait envisagé de faire une migration sur du libre il y a quelques années. La décision a été retournée cette année. Il a été décidé en interne de manière complètement unilatérale et donc sans aucun respect du droit que finalement ce serait du Windows 7 partout. Donc c'est encore une question qui est en cours, je pense qu'on va en parler plus tard en racontant ce qu'on va faire en 2011, mais ça reste un dossier qui va être probablement très important cette année.
Effectivement, vous avez peut-être vu dans l'actualité... pardon. J'ai pas compris ce qui se passait.
Il y a une question.
Ah, il y a une question.
Est-ce que tu veux prendre la question tout de suite ou est-ce qu'on attend la fin?
En fait, il y a une période pour les questions juste après.
Mais note ta question pour pas l'oublier, s'il te plaît.
Donc, on va y revenir. Il y a une entreprise française qui a porté plainte pour non-respect des marchés publics. Et puis, je vous en parlerai tout à l'heure. Sur particulièrement la migration de la ville de Marseille, on risque aussi d'avoir une actualité en 2011. Non négligeable, on va dire. Mais je maintiens le suspense, il faut vous maintenir éveillé. Je sais qu'à cette période de la journée, c'est pas forcément simple, donc je fais du teasing, désolé. À 15h du matin, c'est compliqué, François, c'est vrai. Pacte du logiciel libre, on a eu deux élections à gérer à l'April cette année, les régionales 2010, où il y a eu 270 signatures de candidats aux élections régionales, ce qui a donné 102 élus, dont 30 vice-présidents et 5 présidents de région. Donc là, il y a moyen de... Pareil, on a maintenant un outil qui va devoir nous aider, notamment sur les histoires d'informatique dans les lycées, par exemple, et un certain nombre d'autres choses. Donc voilà, un outil de plus à notre disposition pour cette année. Candidat.be, malheureusement l'outil est un petit peu moins efficace. Vous savez que même s'il y a eu des élections, il n'y a pas de gouvernement, donc c'est un peu compliqué d'utiliser cet outil-là. Mais n'empêche qu'il y a eu un très beau boulot qui a été fait. La communauté aprilienne étant moins active, moins grande, active, mais moins grande, il y a eu quelques petits malentendus en début de campagne qui se sont très vite résolus avec des partenariats avec plusieurs associations belges. On a eu un petit peu de mal au démarrage et ça s'est plutôt bien fini avec un beau résultat puisque les présidents des quatre grands partis ont pris position pour le pacte du logiciel libre et à peu près 44% des élus francophones belges étaient signataires. Merci. Du pacte du logiciel libre, donc c'est plutôt un beau résultat. Et dès qu'il y aura un gouvernement, n'en doutons pas que ça deviendra en plus un outil vachement intéressant. L'actualité institutionnelle française, on a eu plusieurs rendez-vous avec les cabinets de l'exécutif, du Premier ministre, de la secrétaire l'économie numérique, Kosciusko Morizet, également avec son successeur, Monsieur Besson. Les rapports sur le logiciel libre, c'est référence au rapport Attali, il me semble, incitait les administrations à mettre en compétition de manière systématique le logiciel libre et le logiciel propriétaire. Malheureusement, un beau rapport, et comme régulièrement dans les institutions françaises, pas encore de réalisation. On va essayer de continuer à faire notre travail là-dessus. On a été un des acteurs importants du Forum des droits sur Internet pendant de nombreuses années. Je vois que Loïc Daillo est là, il s'est pas mal impliqué il y a quelques années, ou Benoît aussi, sur le vote électronique. Il se trouve que la gouvernance de cet organisme n'a pas été des plus idéales vers la fin. Donc on l'avait quitté, mais il a perdu son financement maintenant. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que tous les contenus qui ont été publiés par le FDI sont maintenant disponibles sous une licence libre, double licence, licence art libre, et les licences Creative Commons by SA. Donc il y a malheureusement une institution qui meurt, mais son contenu est disponible librement à tous les citoyens français. Donc c'est quand même un bon exemple d'usage de fonds publics au service de la connaissance. Projet Conseil national du numérique, ça c'est le successeur du Forum des droits sur Internet. Je pense que ça va pas mal nous prendre d'énergie cette année sur les dossiers institutionnels. Donc on va suivre ça de près. Le futur directeur interministériel des systèmes d'information lui a écrit. Pour l'instant, c'est un projet où il y a pas mal de tensions internes et on ne sait pas encore ce que ça va donner. Et puis des actions conjointes sur l'OPSI 2 avec un certain nombre d'organisations. C'est ce qui est assez intéressant sur ces projets de loi hyper compliqués, c'est qu'on a aussi l'occasion de parler de logiciels libres à d'autres communautés que des gens qui sont des libristes convaincus. Donc les partenariats qu'on peut avoir historiques avec la Quadrature ou avec Libre Accès s'enrichissent en plus d'autres contacts sur la neutralité du net également. On est un soutien de la Quadrature historique. Je vous parlais tout à l'heure du travail qu'a initié Jeanne sur les synthèses. C'est un boulot qui est hyper intéressant pour mettre à jour un peu nos positions sur nos sujets phares, mais ça permet aussi de partager la connaissance. Et je ne sais pas si vous êtes abonné à la liste des diffusions atelier@april.org. On essaye de co-rédiger, co-créer ces synthèses sur cette liste dont les débats sont vraiment intéressants, les contributions le sont tout autant. Donc si vous avez envie de vous impliquer un petit peu dans la rédaction institutionnelle, en direction des institutions, vous êtes vraiment les bienvenus de vous abonner à atelier@april.org ou de suivre l'actualité dans le wiki. Les publications en novembre 2010, la première a été publiée sur les DRM, j'en ai parlé tout à l'heure. Celle sur les brevets a été publiée en début de cette année 2011. Et en cours, à l'heure actuelle, il y a informatique déloyale, interopérabilité, vente liée. Donc évidemment, comme c'est des contenus co-créés, si vous avez envie d'aider Jeanne et les membres actifs qui l'épaulent là-dedans, vous êtes les bienvenus. Vente liée, on a eu une actualité, on a un communiqué de presse en cours de rédaction avec la FUL dont le président Laurent est là, et merci de ta présence. On a travaillé sur un recueil de 101 exemples de publicité sur la vente liée.
Enfin, je peux en dire deux mots.
Voilà.
Il est apparu à de nombreuses reprises, que sur les publicités qui sont distribuées dans les grandes surfaces, où vous pouvez voir, par exemple, dans le métro parisien en ce moment, pour une chaîne de grands magasins de l'informatique que je ne nommerai pas, il apparaît systématiquement, bien sûr, des offres d'ordinateurs à vendre avec Windows, actuellement Windows 7, et à aucun moment donné n'est mentionné ni le fait que ce logiciel a un prix. On ne vous propose pas d'optionnalité, c'est-à-dire pas la possibilité de l'acheter séparément ou de ne pas acheter de logiciel.
Et on ne vous le parle bien sûr jamais du fait qu'on peut demander à être remboursé de ce logiciel si on ne l'utilise pas. Donc tout ça n'apparaît pas, contrairement à ce que nous disaient un certain nombre de gens et de responsables, notamment donc Éric Besson, le nouveau ministre de l'économie numérique, qui, avait fait un plan numérique 2012, il y a quelques années quand il était déjà à ce ministère. Et là, il revient à ce même ministère, il veut réactiver son plan. Dans le plan, il y a deux points qui nous importent, donc qui concernent la vente liée. Et ces deux points, d'après le ministre, ben, en gros, d'après une interview qu'il a donnée récemment, ça allait bien, les prix étaient affichés, le public avait le choix, etc. Je résume très brutalement. Hein. Et donc, en fait, bien sûr, nous, on a voulu, depuis donc maintenant près de deux ans, récolter ces publicités pour simplement faire un petit état des lieux. Et donc, grâce à François, François a repris toutes ces photos et ces scans de publicité et on a fait un petit document qu'on va se faire le plaisir de renvoyer donc au ministre pour lui montrer que dans la pratique, non, il n'y a pas le choix. Les gens n'ont pas le choix, à moins d'être spécialiste et d'aller évidemment dans des petites boutiques très spécialisées et monter son PC soi-même. Les gens se font revendre Windows d'office.
Et c'est un bel exemple d'une contribution d'un adhérent qui nous a juste envoyé un mail avec une photo particulièrement scandaleuse de promotion de la vente liée. On a essayé de le gérer d'une manière juridique, ça ne marchait pas trop. Et puis au fur et à mesure, ça fait boule de neige. Et on se retrouve avec juste un mail d'un adhérent qui se retrouve être un argument institutionnel qui porte auprès des acteurs publics. Donc c'est une belle expérience de contribution assez simple d'un adhérent qui avait a priori pas vocation à prendre cette place-là. Donc merci à Frédéric qui nous a envoyé ce mail et merci à toutes les personnes qui ont contribué à la rédaction de ce cahier des 101 exemples de ventes liées. On a également réagi sur l'enquête ventes liées de la Commission européenne qui se limite malheureusement au marché des professionnels, mais il y a peut-être un espoir que ça bouge au niveau européen. La Cour de cassation qui s'est prononcée en novembre 2010 sur une décision qui va plutôt... il y en a une qui est vraiment importante, celle qui a été publiée en 2010. La deuxième, à notre avis, est moins intéressante. Qui donne des poids juridiques là-dessus. On a eu un rendez-vous avec Éric Besson en décembre 2010, et puis on continue à soutenir le travail de Racketticiel, de la FUL et de l'UFC sur le dossier. Voilà un petit peu pour le résumé de notre activité dossier institutionnel. Et on va passer maintenant à la deuxième partie, qui est les groupes de travail. Donc on en a beaucoup, on est un tout petit peu en retard sur le timing.
Très en retard.
Donc l'un des groupes de travail qui monte un peu en puissance avec des réalisations qui sont vraiment sympas, les gens qui sont venus au Barcamp Accessibilité qui a eu lieu à la Cité des Sciences ont pu s'apercevoir qu'il y avait plein de choses à faire et que c'était assez enthousiasmant. Donc c'est un groupe de travail qui a été créé en décembre 2009, qui a pris pas mal de place pendant les rencontres mondiales à Bordeaux cette année. Il y a plusieurs supports de communication qui ont été développés, un site web libre et accessible.org, une page dédiée sur Framasoft, et ça, c'est partie des partenariats dynamiques qu'on aime bien. C'est-à-dire, on a une idée commune et puis on décide de le faire et c'est vraiment cool. On a eu un rendez-vous auprès du cabinet de NKM pour parler de l'accessibilité, notamment du site web de la secrétaire d'État qui était tout sauf accessible et donc discriminant envers les citoyens français. Et des relais de communication sur des tribunes et des publications, la FSF. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de voir ce que c'est que l'accessibilité, c'est passionnant. Si vous êtes développeur de logiciels, notamment de logiciels avec une interface graphique, posez-vous la question de l'accessibilité de ce logiciel. Il y a des enjeux là-dedans et si on fait du libre, c'est pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc, c'est un peu bête, juste parce qu'on ne s'est pas intéressé au sujet, qui en plus a des réponses très simples, de se couper d'une partie des utilisateurs vraiment très intéressante. Administration des serveurs, j'avais demandé à Théo, Abekela, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur un truc cool que vous avez fait dans le sein du groupe de travail ? Vous avez fait plein de choses, il y a eu plein de migrations de Debian, de DNS, de nouvelles machines, des certificats SSL, du média, de la migration Drupal. Qu'est-ce qui était cool ? Et puis qu'est-ce qui serait idéal pour que ce soit encore plus cool l'année prochaine ?
Alors, qu'est-ce qui était cool ? Alors en fait, ouais, administration système, quand on en parle, bon, ça a l'air un peu chiant, c'est des mecs devant des claviers qui tapent du code.
Enfin, qui boivent du lait. Enfin, pas tous.
Je dois être le seul, en fait. Pardon. Ouais, donc voilà, c'est un peu chiant, en général, administration système. Enfin, c'est chiant à raconter. C'est pas super sexy, mais on s'éclate bien entre nous.
Te sous-estime pas non plus, Théo. Te sous-estime pas non plus.
Je pense que de l'extérieur, ça doit pas être très sexy, ça avance pas vite. On n'a pas beaucoup de comment dire... Pardon. On n'a pas beaucoup de changements, on n'a pas beaucoup de nouveautés, on n'a pas vraiment des trucs très sexy à présenter. Pardon. Ça doit être ça.
On troll pas, s'il vous plaît.
Pardon.
Ils sont assez bons percussionnistes, par contre, les administrateurs système.
Voilà, donc moi je voulais, vu que c'est un peu plutôt austère, parler d'une expérience assez sympa qu'on a vue, une expérience sympa. C'est-à-dire qu'en fait, on avait quelques problèmes sur nos serveurs, problèmes de charge. Et il fallait qu'on aille rajouter de la RAM. Alors c'est un des seuls trucs qu'on ne peut pas faire à distance, c'est opérer sur le matériel. Donc avec Benjamin qui nous observe de très loin, là, avec un air un peu suspicieux, on a pris notre sac à dos, un sandwich et tout, et on est parti changer en randonnée, voilà, c'est ça, avec nos chaussures, nos crampons et tout ça, on est parti loin dans la campagne, à Beson, dans le nord. Et on a été changer cette RAM. Au passage, on s'est dit qu'on avait une version de retard sur la Debian, justement. Pas que ça sorte trop souvent pour qu'on n'ait pas le temps de suivre, mais suffisamment souvent pour qu'on soit à la bourre. Et c'était une expérience assez intéressante. Et surtout, c'était... moi, en tout cas, j'étais pas super rassuré parce qu'on a un système de vServer. Rebooter un serveur physique, c'était rebooter une quinzaine de machines virtuelles, dont une qui était en Woody, qui l'est toujours pour le moment. C'est-à-dire qu'elle a à peu près, on doit atteindre les 10 ans de retard l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Donc voilà, et cette machine était, et un peu moins maintenant, mais elle est encore assez critique. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne pouvait rien faire sans. Aujourd'hui, on peut presque s'en sortir sans. Vous imaginez deux administrateurs système. Qui appuie sur un bouton avec la petite goutte de sueur et puis la veine qui sort et puis le cœur qui bat à 200 à l'heure. Voilà, c'était pour dire qu'en fait, quand on est administrateur système, il y a aussi des émotions, c'est pas qu'un truc chiant. On modifie des fichiers de conf avec des greffes, des sets et des trucs sans
humanité.
Donc
si vous avez envie d'émotions pures.
De l'émotion, de l'aventure, des choses comme ça, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Parce que vous n'êtes pas très nombreux, c'est ça le truc.
On est de moins en moins nombreux. Il se trouve qu'on n'est plus que un à ce moment. Mais on devrait tripler d'ici un mois, ce qui est une bonne chose, voire peut-être plus si je suscite des vocations aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, on est super sympa. Et pas tous barbus. Voilà.
Oui, comme on disait tout à l'heure, l'administration système, l'admissis, c'est le truc dont personne s'intéresse jusqu'au jour où ça marche pas. Et là, tout le monde, évidemment, tape sur le pauvre admissis qui, pourtant, fait beaucoup de choses autant qu'il peut. On va passer à l'animation.
Animation. Un groupe de travail assez important aussi, pas forcément très visible lorsqu'on n'est pas énormément impliqué à l'April, mais qui fait un travail essentiel, transversal, d'essayer de faciliter le travail des bénévoles et des permanents. Donc il y a eu le projet Agir April qui essayait de mettre à disposition des petites tâches. Si vous avez une demi-heure à consacrer à l'April par mois ou par an, vous trouverez sur Agir April des trucs simples, genre aller prendre une photo d'une publicité faisant la promotion de cet acte illégal qui est la vente pied. Donc c'est des choses qui sont très intéressantes comme ça, ou aller changer la RAM. Non, ça c'est pas très smart. Il y a eu aussi la rédaction d'un guide du bénévole, dont vous avez des exemplaires à l'accueil, et donc je vous engage à en prendre si vous avez envie de savoir comment s'impliquer à l'April. Essayer de fluidifier l'activité des bénévoles à travers des réunions physiques, IRC, on en a parlé tout à l'heure des revues hebdomadaires, ou téléphonique avec notre pont téléphonique. La rédaction de messages d'accueil, par exemple, sur éducation, où c'est vrai que c'est une mailing list qui accueille des gens qui ne sont pas forcément au fait entièrement du logiciel libre ou de comment on dialogue sur des mailing lists, donc des documents d'accompagnement de ce genre-là. Et puis, enfin, une enquête sur l'amélioration du taux de recouvrement des adhérents, comment faire en sorte que on trouve des solutions à cet petit essoufflement en termes de croissance de l'association. Donc,
on peut en dire deux mots vite fait. On a eu des problèmes cette année qui sont liés, je pense, aux problèmes généraux de l'économie en France. On a pas mal de gens qui n'ont pas pu régler leurs cotisations, notamment donc des personnes physiques, mais aussi des entreprises qui nous ont dit que leur situation ne leur permettait pas de régler une cotisation cette année. Donc on s'est retrouvé effectivement avec un taux de recouvrement des cotisations assez bas. Et donc nos permanents ont fait pas mal d'efforts d'appels téléphoniques, parce que bien sûr il y a des relances, on va dire, classiques, automatiques par mail, mais au bout d'un moment ça suffit pas. Donc il y a eu tout un travail fait, notamment de relance téléphonique, de contact téléphonique, pour essayer de voir avec les gens qu'est-ce qui se passait, quels étaient les problèmes. Donc voilà, tout ça c'est pareil, c'est des choses qui n'apparaissent pas forcément comme des activités de l'April, mais qui doivent être faites pour pouvoir garantir la pérennité de l'association.
Les causeries qui ont été réactivées cette année, grâce à Benoît qui avait initié ça il y a quelques années, et Johan qui reprend le flambeau. Donc il y a eu deux causeries, l'une sur les modèles économiques du libre sur lequel j'étais interrogé, et un autre où Laurent Costi, qui est, il me semble, là. Voilà, pardon, qui était interrogé sur le monde associatif et le logiciel libre. Donc si vous avez des idées de thèmes ou si vous avez envie de participer à l'organisation de ces causeries, vous êtes les bienvenus, évidemment. Classement du logiciel libre à l'UNESCO, c'est un projet, une idée de Pierre Jarillon qui a été poussée à l'April par Benoît Cibot. Donc ça a été initié en 2002 par la FSF France et par l'April. Il y a un dossier qui a été monté en 2003, il a été refusé. Il y a eu un classement partiel du projet GNU par les Amis des Trésors du Monde, qui est une association très proche de l'UNESCO. On s'est posé la question de cette année de réactiver ce dossier-là. Il se trouve que les conditions sont à peu près identiques, voire pires, qu'en 2003. C'est-à-dire que les espoirs sont assez faibles que notre dossier soit accepté. C'est un lourd travail de rédaction, il y a beaucoup d'efforts qui sont nécessaires, et en plus les Américains ne sont pas très favorables à ce classement-là, et donc du coup, vu que leur poids a augmenté, on a pensé que l'effort allait être trop important, surtout au vu des risques d'échec, et donc on a décidé d'arrêter ce groupe de travail. Communication externe, comment faire connaître l'April, les activités de l'April à l'extérieur de l'association. Donc essayer de mettre à jour nos documents de communication, avoir un look de présentation qui soit à l'image de l'April, faire des flyers spécifiques. Il se trouvait que c'était un groupe de travail un petit peu bâtard, entre guillemets, qui était entre animation et sensibilisation. Donc on a décidé de merger communication externe avec sensibilisation, puis vu que l'usage des outils est assez identique, et il se trouve que ça marche plutôt pas trop mal, et qu'il y a a priori pas mal d'actifs dans sensibilisation, et donc du coup ça avance quand même. Diversité. L'année dernière, on a fait un peu un bilan qui nous était rappelé régulièrement, c'est que l'April n'est pas encore assez ouverte aux personnes qui sont soit pas geeks, soit pas des hommes, soit pas trentenaire, soit etc. etc. Un chiffre emblématique, c'est qu'il y a seulement 6% des adhérents à jour de cotisation qui sont des femmes. Donc ça nous semble, on ne comprend pas trop pourquoi, on doit avoir des problèmes dans notre communication, on doit aussi adapter notre communication à un maximum de public. Donc voilà, c'est l'objectif de ce groupe de travail. Il y a eu un programme de mentorat pour la partie diversité et féminisation qui a été mise en place. on a participé au Gender Diversity au Forum mondial du logiciel libre en 2010. Et on a participé également à la journée Adal Lovelands Day pour essayer de mettre en valeur des femmes libristes de la communauté et éventuellement susciter des vocations. Pareil, si vous êtes motivé pour participer à un groupe de travail, vous êtes les bienvenus pour faire en sorte que le travail initié en 2009, qui est hyper intéressant, continue. Initié en 2010, continue en 2009, en 2011. Je vais y arriver. Éducation, un groupe de travail foisonnant avec plein de choses. Si vous avez lu le rapport moral, il y a plein de dossiers hyper passionnants. Une nouvelle activité, c'est le fil de news sur le wiki. News éducation qui est hyper intéressant. Et Rémi, un petit panorama rapide de ce que vous avez fait de bien en 2010, en plus de ce fil de news.
Je me présente. Je me suis présenté tout à l'heure, je ne vais pas recommencer. Donc brièvement, là, vous voyez un petit peu les différentes actions menées par le groupe de travail, qui est un groupe qui est vraiment assez dynamique, hein, je dirais même en progression, puisque sur la liste de diffusion, qui est l'organe principal de communication, il y a à peu près 250 abonnés, avec bien sûr à chaque fois des top posters, comme on dit, hein, des gens qui contribuent régulièrement et souvent, et c'est tant mieux. Et grâce à cette un peu ambiance constructive et à l'initiative de certains adhérents comme Antoine, on a pu par exemple produire cette, en toute objectivité, très jolie affiche de sensibilisation. Dans l'éducation, il faut voir que le logiciel libre n'est pas encore tout à fait rentré dans les mœurs, on en parle beaucoup, mais il reste quand même un gros travail de sensibilisation à mener. Et on compte sur vous d'ailleurs, on peut compter sur vous puisque vous êtes déjà là, et sur tous les membres de la liste éduc. L'affiche est un bel exemple puisque c'est une idée initiale qui a été proposée pendant les RMLL cet été. Et petit à petit, par itération successive, on a pu produire ce document-là. On a aussi contribué à la mission Forgus. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est une consultation d'un député sur l'utilisation des nouvelles technologies dans l'éducation. Donc là, on a été entendu, ou écouté, je ne sais pas lequel des deux, hein, on verra plus tard. Mais en tout cas, nos propositions ont été reprises dans le rapport. Donc ça veut dire que le poids que vous nous apportez en étant adhérent de l'April, on arrive à le mutualiser derrière. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. Donc, dernier travail en cours, c'est le fil de news éducation, initié par Charlie, qui est un gros travail et très intéressant. Donc je vous invite à vous rendre un peu sur le wiki du groupe de travail éducation, d'y contribuer. N'ayez pas peur, hein, même de poster sur la liste. Toute contribution est la bienvenue, que ce soit des coquilles ou simplement proposer une idée, ou copier-coller peut-être un article que vous avez vu sur Internet dans le fil des news, ça fera progresser tout le monde. Donc voilà, je peux que vous encourager. Voilà, et je vous remercie d'être venu. À bientôt.
Alors, Et aussi, on le fait beaucoup dans tous les groupes de travail, mais c'est partenariat avec d'autres associations qui se font de manière assez dynamique. Et du coup, avec lesquels on avait fait une affiche l'année dernière. Je pense aussi à la page de l'April qui est sur le projet Plume. Et Jean-Pierre est là et je le remercie de sa présence. Ces partenariats dynamiques avec lequel on a l'habitude d'agir. Donc pour l'éducation. Merci Jean-Pierre en tout cas pour ta présence. Libre Association. Donc Libre Association, l'idée c'est d'essayer de créer des ponts avec le monde associatif et logiciel libre où on a des points communs, en tout cas dans la philosophie, et que malheureusement les associations ne sont pas forcément n'utilisent pas forcément du logiciel libre. Donc essayer de faire une cartographie de tout ça, c'était l'objectif l'année dernière de libreassociation.info, enfin il y a 2 ans. Et puis cette année il y a eu une feuille de route du groupe de travail qui essayait de tracer un petit peu des objectifs là-dessus, une participation au manifeste de la CNAGEP, un partenariat avec le Crédit Coopératif. Alors au début, ça devait faire l'objet d'une embauche à temps partiel pour pouvoir dédier du temps à la diffusion de ces connaissances-là. Il se trouve que ça a un peu évolué, que maintenant on va décliner le catalogue du libre pour les associations. Donc c'est un projet qui verra le jour en 2011. Libre en fait. Comme chaque année au printemps, cette année il y a eu 150 événements en France. C'est un partenariat avec la DUI, les réseaux cyberbases de la Caisse des dépôts et surtout tous les gens, des gules ou des individus qui profitent de cette visibilité qu'offre Libre en Fête pour organiser des événements près de chez eux, hyper intéressants. La revue de presse, un travail vraiment cool de fourmis réalisé par Emmanuel.
Merci pour lui.
Charpentier qui peut se lever. Je vais peut-être pas te laisser la parole parce qu'on est hyper en retard, mais merci pour ce travail. Il fait ça quasiment tout seul, enfin avec des informations des membres et notamment ceux qui utilisent IRC pour référencer les différents articles. Et Luc qui l'aide, qui est juste à côté, membre du CA, qui l'aide. Et en plus, il le diffuse un peu partout sur le site de l'April, sur Linux FR, sur divers champs FM. Et si vous connaissez une radio associative qui est intéressée pour diffuser du contenu radiophonique créé par ces deux larrons, à la très belle voix, n'hésitez pas à les contacter. Ils cherchent à diffuser leurs connaissances comme nous tous ici. 710 articles référencés en 2010 et tout autant au moins en 2011. Merci en tout cas pour ce travail. Sensibilisation, Jean-Christophe, faisons court, je suis désolé, on s'est un peu...
L'April, c'est défendre et promouvoir le logiciel libre. Le groupe Sensibilisation vise à outiller les membres de l'April pour mieux promouvoir le logiciel libre. Parce que si on veut, lorsqu'on lance des appels à défendre le logiciel libre sur ACTA ou sur les brevets logiciels, avoir une large communauté qui participe, eh bien, au préalable, il faut avoir sensibilisé les gens aux enjeux de ces choses-là. Et comme c'est relativement complexe, eh bien on a besoin de petits supports pédagogiques pour mieux sensibiliser les gens. Donc le groupe Sensibilisation, c'est un groupe qui a été très dynamique en 2010, qui a été co-animé sur la première partie de l'année avec François Poulain. Je voudrais rendre un hommage appuyé à François pour avoir initié, coordonné et finalisé le catalogue libre qui est sorti en version numérique il y a un mois et qui va sortir en version papier dans 15 jours et qui est un support pédagogique d'une qualité absolument remarquable qu'on va faire imprimer à 5000 exemplaires et qu'on va diffuser partout dans le monde. On a produit des posters, des dépliants, tout un tas de supports pédagogiques de sensibilisation au logiciel libre. Il y a d'autres productions très très dynamiques qui sont en cours. Donc inscrivez-vous à la liste sensibilisation, venez voir un petit peu ce qui se passe sur le wiki. Participer, on a besoin de relecteurs, de contributeurs, il n'y a pas besoin forcément d'être un expert pour participer. Faites-nous part de vos retours pour qu'on puisse peaufiner, finaliser et faire paraître ces documents qui ensuite pourraient être utilisés par le plus grand nombre. Merci.
Un tribute à aussi Antoine Bardelli qui fait un travail remarquable.
Oui, ça, on peut en dire deux mots. Antoine Bardelli, c'est quelqu'un qui nous a rejoint il y a maintenant un peu plus d'un an. Et dès qu'il est arrivé, il s'est mis à faire un certain nombre de documents. Donc on voulait faire depuis longtemps, c'est-à-dire on avait déjà commencé à rédiger plus ou moins les argumentaires, mais il nous manquait un graphiste, c'est-à-dire quelqu'un qui sache mettre ça en œuvre de manière sympathique. Et bon, quand on n'est pas graphiste, on fait des trucs moches. Donc nous, moi le premier, je faisais des trucs moches. Et toi aussi, oui. On était plusieurs à faire des trucs moches.
On a la chance d'accueillir Antoine ou Éléonore aussi qui a fait le...
Alors, il y a Éléonore qui est dans la salle, qui nous a aidé
debout,
à faire...
Debout.
Merci.
Qui a fait toute la charte graphique du catalogue libre. Merci. Nous, les geeks, on n'a pas du tout ce talent que vous avez. Ah. On est admiratifs.
Et donc, Antoine qui, non seulement donc, est bon graphiste, c'est-à-dire qu'il est capable de mettre en œuvre un document pour le rendre intéressant. Il y a le guide du bénévole dont on vous a parlé que vous allez pouvoir prendre là à la sortie. Affiché à l'extérieur, vous avez un grand panneau logiciel libre, comment ça marche. Et tout ça, en plus, il est capable de prendre en charge les documents complètement, c'est-à-dire qu'il prend la fabrication de A à Z et il gère ça jusqu'au document final. Donc vraiment, merci à lui.
Et si vous avez des velléités de graphiste ou des talents cachés de graphiste, je pense qu'en plus, Antoine et Léonore sont prêts à partager leur... leur connaissance avec vous, donc n'hésitez pas à participer.
Et juste pour finir, depuis quelques semaines, c'est Lionel qui co-anime le groupe avec moi, François
est en plus, il y a plein d'autres tâches. Il y a plein de membres actifs qui font un boulot extraordinaire qu'on ne peut pas tous citer, donc, malheureusement.
On est présents aujourd'hui, ce soir, demain, n'hésitez pas à venir nous voir. D'ailleurs, demain, dans le cadre de la journée de travail des membres, il y aura un temps consacré au groupe de travail sensibilisation.
Gros travail aussi, le site web, notre outil de communication. Ça fait depuis la naissance de l'April qu'on publie des choses sur Internet. 14 ans de contenu, ça fait qu'on a un site qui est très foisonnant, très riche. On a des progrès à faire peut-être dans l'organisation de l'information. Mais il y a un truc sur lequel on est relativement bon dans l'organisation de l'information, c'est le wiki. Parce qu'il est de plus en plus utilisé et il est de mieux en mieux jardiné. Et là aussi, il faut rendre un hommage.
Alors, à François Boulogne, qui j'ai vu passer, voilà, il est là, voilà. Merci. Donc, là aussi, ça fait partie de ses tâches ingrates, c'est-à-dire que quand le wiki est propre et bien tenu, tout le monde trouve ça normal. Et c'est quand il n'est pas bien tenu que les gens se plaignent. Donc voilà, c'est repasser derrière tout le monde, s'assurer qu'il y a des catégories de mise, que voilà, c'est mis en forme correctement. Donc merci
avec
à lui.
Avec une réactivité assez incroyable. Oui. Enfin, moi, j'étais bluffé à chaque fois que j'ai créé une page où je suis un goret et je mets pas les catégories. Et en quelques minutes, on vient corriger mes erreurs et je me rends compte que je fais pas les trucs du tout bien, donc à chaque fois je prends exemple sur les bons exemples que tu me donnes, donc merci beaucoup pour ce travail invisible mais essentiel. Autre travail peu visible et essentiel, la traduction. Ils ne sont pas nombreux puisqu'ils sont majoritairement un, Marc.
Marc qui se cache là-haut, il est dans la partie invisible de l'amphi, donc vous ne le verrez pas, mais... Donc, il assure tout un travail.
Et Thibaut aussi, je ne sais pas s'il est là, non ?
Que Thibaut est là, non. Et ils assurent donc tout un travail de traduction ce que l'April fait vers d'autres langues. Hein.
C'est un travail de fond, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les contenus nouveaux, les communiqués de presse. C'est vrai que là, on a un peu plus le réflexe. Et en plus, avec la venue de Jeanne et puis le travail que faisait Alix aussi là-dessus, on était moins mauvais que sur des contenus de fond qui évoluent moins. Et là-dessus, l'équipe de traduction est vigilante, choisit des contenus un peu plus enfouis dans le site web pour les mettre en valeur dans d'autres langues, en anglais, en espagnol, en arabe, et j'oublie plein de langues.
Portugais, me semble-t-il.
Et il y a une partie de la traduction qu'on a déléguée aussi à un projet qui est cool, qui est Framalang. Simon est là aussi. Ça fait partie des partenariats cool, dynamiques. Donc, merci pour ce travail et la reprise de ce projet qui a été moins efficace à l'April et qui est entre de bonnes mains maintenant dans le projet hébergé par Framasoft. Transcription. Alors, ça aussi, c'est un projet de fou, pas forcément visible. Donner une existence, notamment sur les moteurs de recherche, de contenu vidéo, animé par Magali, avec une... avec Snip qui est là, je crois, non ? Oui, il est là. Ben voilà. Et une demi-douzaine d'adhérents qui passent comme ça, qui repassent et repassent les vidéos à regarder les mêmes orateurs dire les mêmes conneries, juste pour leur donner une existence sur les moteurs de recherche. C'est vraiment appréciable. Je me rappelle de cette conférence aux Rencontres mondiales où il y avait une équipe de transcripteurs qui ont transcrit en direct une conférence, une réunion April. C'était un beau défi. Donc merci pour ce travail aussi, pas forcément très visible. Quelques autres actions, alors des actions plus ponctuelles, des réactions de l'April. Ça fait partie des indignations de l'April ponctuelles comme ça. Il y a eu une exposition sur la contrefaçon qui a été... accueilli par la Cité des sciences et l'industrie, dans lequel il devait avoir un bloc autour du logiciel, des contenus libres et du libre en général, de la notion de libre. Il se trouve que, sous pression d'un certain nombre d'acteurs, cette partie a été censurée la veille de l'ouverture de l'exposition. Donc on a réagi, on a écrit un courrier avec Framasoft, à la direction de la Cité des sciences et de l'industrie, qui nous a reçus assez rapidement, parce que visiblement, ils étaient assez gênés aux entournures. Surtout que c'est un partenaire un peu historique du Libre, la Cité des Sciences, donc c'était d'autant plus décevant. Et puis il y a eu, grâce au travail de Simon, de Fred, un tractage qui a été fait pour l'inauguration, une mobilisation comme ça de plusieurs dizaines de membres qui se retrouvent sur un combat ponctuel. C'était une belle aventure. Des déplacements ponctuels, alors on fait plein de conférences partout, et puis Fred s'est déplacé cette année à Toulouse pour essayer faire des rendez-vous institutionnels dans la région toulousaine avec des entreprises, des élus, on a vu des députés de l'Assemblée nationale, du Parlement européen, au conseil régional, à la mairie, des associatifs, et ça permet de pousser comme ça localement des projets. Et ce qui est assez cool, c'est qu'on en discutait hier avec les Toulousains, c'est que Fred vient pendant quelques jours à Toulouse et que ça aide aussi à pousser quelques projets. Donc si vous avez envie que l'April vous aide sur des projets un peu institutionnels, on peut évidemment dédier ce temps-là. Et puis on a profité en fait des conférences Ubuntu Party à Toulouse pour mutualiser ce déplacement. Et puis, on est présent dans énormément de conférences et d'événements. On a participé à 36 conférences et tables rondes. L'April est disponible si vous avez envie de faire parler du logiciel libre dans des événements dont vous avez entendu parler ou que vous co-organisez. Et puis, on est présent dans une quinzaine de salons et événements partout en France. Ça fait partie de notre mission de promotion. N'hésitez pas à nous solliciter. En ce moment, il y a pas mal d'étudiants qui ont envie qu'on intervienne dans les écoles. C'est l'objet de l'association de faire ce type de choses. Et c'est important, notamment dans les écoles d'ingénieurs, de parler du libre. On en fait d'autant meilleurs informaticiens ou ingénieurs ou citoyens. Plein de partenariats, comme je vous disais, des partenariats dynamiques, et c'est aussi cool de voir que pendant cet AG, il y a des présidents d'autres associations, comme Laurent, comme Jean-Pierre, qui viennent lors de l'AG. Donc, ou Simon, qui est permanent à Framasoft. Donc, nous, on est toujours, et Ubuntu FR aussi, avec Quesh et Olive, et j'en oublie encore plein. J'ai oublié sans doute plein de gens, plein d'associations avec qui je me suis aperçu. Par exemple, on avait coécrit sur la mairie de Marseille un communiqué de presse avec Libertis, et que je l'ai malheureusement oublié dans notre liste de partenariats, des partenariats avec des sites comme Lolix pour valoriser les emplois dans le logiciel libre. La Quadrature, j'en ai beaucoup parlé. Merci beaucoup à Vincent aussi, Calam, pour le partenariat avec la FPH, la Cantine, le Crédit Coopératif, etc., etc. Donc merci à toutes ces associations à qui on peut travailler en bonne entente. Et puis enfin, on est présent dans pas mal de médias, des révélations presse. On a écrit 29 communiqués en 2010 de presse qui ont été repris à peu près partout dans la presse spécialisée ou généraliste. On produit aussi des Zoom April pour IntelliEnt TV, qui est un contenu assez rigolo, et puis quelques exemples de médias dans lesquels on a été relayés sur France Inter, sur France Culture, dans le monde papier, dans le monde journal. Donc un petit peu un élément essentiel pour faire aussi parler du logiciel libre à des gens pour qui c'est moins évident que nous de l'apport que ça peut avoir. Voilà pour le rapport moral de cette année. Peut-être que ça suscite des questions chez vous. En tout cas, si je me rappelle bien, il y en avait une.
Alors, on va vous demander de faire très bref parce que on a pris un peu de retard. Et oui, tu veux t'en occuper ?
C'était pas vraiment une question, c'était juste un commentaire. Quand il faut aller en justice, il faut y aller, c'est tout.
J'ai pas entendu.
Le contexte, c'était les marchés publics. Bah, quand les clauses sont abusives, il y a le tribunal administratif, si je ne me trompe pas, et puis bah, voilà quoi. On a commencé à apprendre dans d'autres domaines, les ventes liées, tout ça. Bah, bon, au début, c'est un peu dur, mais du côté racketticiel, on en est à 25 procès ou quelque chose comme ça. Bah, faut continuer.
Absolument, c'est quelque chose d'assez essentiel. Le seul truc avec les marchés publics, c'est qu'il faut être en mesure d'y répondre pour pouvoir attaquer. Donc une association comme l'April, malheureusement, ne peut pas dénoncer un marché public qui nous semble illégal par le simple fait qu'on n'a pas la capacité, la capacité juridique pour le faire. C'est bien dommage. C'est pour ça que nous, on agit plutôt sur... le côté communication, sensibilisation des acteurs publics.
C'est juste que nous, on a peut-être un peu trop tardé au début à y aller, et voilà, il faut...
Et tu as remarqué qu'en 2011, on a plutôt des bons événements, puisqu'il y a une entreprise dont j'ai oublié le nom, parce que... Nexedi, voilà, qui a dénoncé un marché public et qui a gagné, donc c'est aussi quelque chose d'assez positif. Voilà, et aussi assez dangereux, il y a un membre d'April qui n'était pas en situation de répondre, qui a voulu dénoncer et qui s'en est cassé les dents. Donc, du coup, c'est voilà, il faut que les conditions juridiques soient là, parce qu'autrement, si on le fait de manière un peu trop hâtive, c'est vrai que ça ne peut pas être forcément aussi constructif qu'on le voudrait. Autre question ? Le DG est très impatient de voter. Mais en même temps, c'est important.
Je vais faire court. Hein. C'est juste une petite question par rapport à Identica. Je trouve juste un petit peu dommage de passer par Identica, sachant que ça tourne sous StatuNet et que l'intérêt premier de StatuNet, c'est de permettre de faire du décentralisé. Donc, on a vu tout à l'heure que l'équipe d'administration était un petit peu débordée. Mais est-ce que ça serait éventuellement envisageable d'héberger au niveau de l'April un statut net plutôt que de passer systématiquement par Identica?
Comme Théo nous l'a fait sentir, les admins s'écroulent sous le travail. C'est pas la volonté qui nous manque, c'est plutôt les forces. A priori, l'April n'est pas une association, historiquement, l'April n'est pas une association qui rend des services à ses membres. Et ceci dit, si vous êtes motivé et que ça prend pas de temps sur les activités essentielles des admin 6, il n'y a pas de problème.
Si des entreprises vous proposaient de vous donner un coup de main là-dessus, ça, ce serait éventuellement envisageable.
Pourquoi pas, tout est possible. Ouais.
D'accord.
Alors, fais gaffe, hein, parce que comme on dit chez nous, t'as pris le A, c'est-à-dire que.
Qui mène l'action. Oui, moi j'avais une question, c'était juste par rapport à l'inscription des logiciels libres au patrimoine de l'humanité à l'UNESCO. J'aurais voulu savoir quelle était la raison avancée par ceux qui s'y opposaient, donc les Américains, puisque c'est eux que vous avez désignés.
Non, c'est pas les Américains, c'est juste qu'on sait qu'en interne à l'UNESCO, historiquement, le poids un peu plus important des Américains fait que c'est moins favorable, mais c'est pas les Américains qui ont refusé le dossier. J'ai pas trop d'historique là-dessus. Benoît, je sais pas si tu veux... Attends, juste pour le micro...
C'est assez simple. Hein. Les éditeurs de logiciels propriétaires sont majoritairement américains et ils ont pas du tout envie qu'il y ait de l'ouverture sur la diffusion, le partage et autres, ça ne les intéresse pas du tout qu'il y ait de la promotion là-dessus, et ils font comme font les nôtres en France, hein, mais ils font pression auprès de leur gouvernement. C'est leur gouvernement qui est membre de, enfin qui est le porte-parole des États-Unis au sein de l'UNESCO, de même qu'en France c'est le ministère de la Culture, hein, qui est porte-parole pour l'UNESCO. Donc bon, voilà, vous voyez comment est le ministère de la Culture en France sur les questions de logiciels libres. Bah, c'est pareil aux États-Unis.
Et sur les raisons invoquées en 2003, c'était...
On n'a pas le détail de ce qui se passe, on a juste, on sait juste que le dossier est refusé pour des raisons officielles, et les raisons officieuses, c'est aussi qu'il y a des gens qui ne voulaient pas. Donc on n'en sait pas plus, on n'est pas au sein des commissions, on n'a pas de compte-rendu, on n'a que des infos indirectes qu'en théorie on ne devrait même pas avoir, quoi, qu'on a de manière indirecte par les gens qui nous disent de toute façon ça ne pouvait pas passer, il y avait des gens qui étaient contre.
Donc encore une institution à la gouvernance équilibrée et transparente, on peut le voir.
Pour les raisons officielles, ce qui ne leur plaisait pas, c'était la multiplicité des auteurs sur le patrimoine et le fait qu'ils soient multi-pays.
D'accord. Comme dit François, pour un patrimoine mondial, c'est assez étonnant. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Oui, François. Ah, il y en a deux. Pardon. Alors, une ici. Excuse-moi, je n'avais pas vu que tu avais levé la main.
Bonjour. Justement, pour répondre à des dossiers comme ceci qui se jouent au niveau mondial, je voulais savoir dans quelle démarche était l'April par rapport à des partenariats avec d'autres associations internationales au niveau d'abord européen et puis après international.
Eh ben, comme c'est vrai que je ne crois pas que je l'ai mis dans le Tech Cloud, mais historiquement on est assez proche de la Free Software Foundation. C'est notre partenaire international le plus privilégié. Au niveau européen, on est en contact très très régulier avec l'OFE, Free Software, FFI. La FSFE, avec des homologues européens, Assoli, ISPA Linux, avec qui on a monté la déclinaison de candidat.fr pour les européennes. End of software patent, effectivement. Donc on essaye d'être le plus large possible pour mener à bien les projets avec des partenariats dynamiques et effectifs. Et puis l'exemple d'Oxfam ACT-UP ou la quadrature sur ACTA, c'est aussi des bons exemples de contributions avec des organisations internationales qui est vraiment très, très intéressant.
On va prendre une dernière question qui était là-haut, et puis on va s'arrêter là, s'il vous plaît, parce que il faut qu'on avance.
Oui, bonjour. Donc, j'ai vu que parmi les nouveaux adhérents en 2010, il y avait la société Oracle. C'est une société qui utilise, entre autres, les brevets logiciels pour attaquer ses concurrents. Et ça me paraît un peu incohérent par rapport à la position de l'April sur les brevets logiciels.
Alors, on ne se prive pas pour dire tout le mal qu'on pense d'Oracle. Effectivement, ce qu'ils font avec Java, un logiciel libre dans lequel ils veulent gérer la gouvernance de manière autoritaire en utilisant le prétexte des brevets logiciels est inadmissible. Maintenant, ils souhaitent adhérer à l'April. Historiquement, c'était Sun qui était adhérent à l'April. Nous, on n'est pas une association qui rend service à ses adhérents. Donc, que Oracle veuille nous donner de l'argent et qu'on ait des accointances ponctuelles, notamment sur les formats ouverts, ça ne nous dérange pas. Ils ont un poids très limité financièrement dans l'activité financière de l'April, et c'est ce mode de gouvernance-là qui nous permet une très grande liberté et indépendance financière. Google, qui produit aussi des logiciels propriétaires, Thales, etc., sont membres de l'April. Il se trouve qu'à certains moments... Ah, plus Thales, pardon. À certains moments, on partage des dossiers communs, ils veulent nous aider de manière ponctuelle, ce qui n'empêche pas de dire tout le mal qu'on pense sur certaines de leurs actions. Alors, on a reçu aussi pas mal de questions des votes en ligne. Comme chaque année, on va y répondre avec attention et les réponses seront publiées. Vu le timing, on ne va pas avoir le temps d'y répondre, mais pour ceux qui nous regardent, qui ont voté en ligne, les réponses seront publiées d'ici quelques jours sur le site de l'April et accessibles à tous. Donc, il y a certaines questions qui ont été posées ici et d'autres auxquelles on va répondre un petit peu plus tard. Alors, avant qu'on passe au vote, je voulais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés dans la rédaction de ce bilan moral, c'est-à-dire que tous les responsables de groupes de travail, tous les référents CA, les gens qui nous ont aidés, les bénévoles qui nous ont aidés à la relecture de ce bilan moral, le fait que ce bilan moral soit lisible sur du papier, transformé en LaTeX, etc., etc. Il y a plein de gens qui nous ont aidés là-dessus. C'est un gros boulot chaque année. Donc voilà, je voulais, juste avant qu'on passe au vote, juste les remercier vraiment. Et tous ceux qui ont participé aux actions pour faire en sorte que ce bilan de morale soit aussi riche et aussi passionnant et qu'on fait que l'année 2010 soit aussi passionnante. Donc merci à eux vraiment, profondément.
Merci. Alors, on va passer au vote. Pour ceux qui ont déjà voté en ligne, évidemment, ne revotent pas. Ceux qui votent ici physiquement, vous avez trois petits papiers de couleur. Alors, le vert, ça veut dire oui.
Donc pour.
Ou pour. Le bleu, ça veut dire abstention. Et le rose,
c'est contre.
Contre, je suis contre. D'accord. Alors, on va mettre au vote.
Alors, avant, juste oui, pour des aspects de validité du vote,
oui, vote.
Je vous rappelle que il y a eu, à l'heure actuelle, il y a 3107 adhérents à jour de cotisation. En ligne, 1257 personnes ont voté. Vous êtes 108 présents ou représentés physiquement au sein de cette Assemblée générale. Ce qui fait un quorum à 937 personnes et de votants à 1365 personnes. Donc, je vous propose qu'on mette au vote le bilan moral. Donc, je vous rappelle, vert pour, abstention.
Alors, on fait un vote à main levée, hein.
À papier levé.
À papier levé, parce que chacun ne va pas venir poser son papier dans sa petite enveloppe. On commence par ceux qui sont contre, abstention, et ceux qui sont pour.
Par exemple.
Allez, c'est parti.
Alors,
on va vous demander donc ceux qui sont contre le bilan moral.
Est-ce que
donc ceux qui ont un papier rose. Bon. J'en vois pas. Non. Si, personne. Bon. Non, pour nous faire plaisir, non. Alors, qui s'abstient? Qui a un papier bleu? Il y en a un? Faut lever haut parce que sinon on va pas le voir. Hein. Je préviens tout de suite. Ok. Non. Donc, qui est pour? C'est-à-dire, qui a un papier vert? Alors, moi, je suis le chef, j'en ai deux. Hein. Ah non, toi, t'es le chef, t'en as combien? 6.
9, je suis vraiment désolé.
Alors, 9. En fait, c'est parce qu'on a des procurations de gens qui ne peuvent pas venir. Alors, voilà, il va falloir les compter maintenant.
Donc, il me semble qu'il y a 108 papiers verts qui viennent de se lever. Aurélia, je pense que...
Attends,
En fait, il y en a 108, vu qu'il
n'y
a a priori eu aucune... Mais si tu veux compter...
Alors... Ah oui, attends. Vous voulez bien vous garder vos papiers en l'air 2 secondes? Je vais prendre une photo. Bon, ceux qui ne veulent pas être sur la photo, c'est le moment de vous cacher.
Cachez-vous derrière votre papier.
Merci. Merci bien. Merci à tous. Merci de votre confiance.
Bah, attendez, les résultats. Merci d'avoir le.
Merci de la
merci de déjà d'avoir
confiance
voté.
Des gens qui sont présents. Attends, moi
et
j'ai...
en plus des gens qui sont présents.
Oui, j'ai pas dit que c'était le résultat final. Attends. Et alors, tu nous fais les décomptes, Tanguy,
absolument.
C'est ça?
Absolument.
En direct
et
live.
Le compte est juste, a priori. Donc il y a 1365 votants. On votait contre une personne. S'est abstenu 60 votants. Et ont voté pour le bilan moral 1304 personnes. Le bilan moral 2010 est adopté.
Merci à tous.
Alors, vu qu'on a été relativement long et qu'en même temps, c'est aussi, ça fait partie du charme de l'AG d'être relativement exhaustif sur nos activités 2010, je vous propose qu'on fasse une petite pause. On a 10 minutes de retard. mais on fait une pause de 10 minutes, histoire de s'aérer les neurones, les poumons, et se mettre un peu de caféine dans les veines. À tout à l'heure.
Merci.